C'est quoi ça?
Big Six. Ouais, c'est les gros six. C'est super bien, c'est vachement punchy. C'est
après, cool. On connaît pas le sens des paroles.
Ouais, on dirait du Snoopy Dogs. Si ça se trouve, c'est hyper sexiste.
c'est Snoop Dogs.
Ouais, enfin bref. Moi, j'ai un autre truc à vous proposer qui est vachement plus pertinent.
Ouais, vas-y, on voit.
C'est bien ça.
Regarde, on va mettre ça. Oh non. Oh,
bah
non,
non. Ah
bah
non,
non.
Non,
non.
Non, mais ça c'est.
C'est pas assez militant.
Non, mais c'est ouais. Trop vieux.
De toute façon, moi j'ai une autre idée.
Bah
c'est quoi? Bah c'est du luth.
Oh,
avec du luth.
Ah là là, ok, ok.
Ouais, sinon, on retournerait pas un peu sur un petit truc
Ouais, on a qu'à remettre les biguines des grossistes là. Hein.
Ouais, allez, ça au moins ça pulse.
Au début, il y a un constat. On boit, on aime plutôt ça. Et dans la région, qu'est-ce qu'on fait? Du cidre. Deuxième constat. Les uns après les autres, les vieux arrêtent d'en faire sans que personne ne reprenne. Donc il y a des pommes à récupérer. Il y a 7 ou 8 ans, on est une petite dizaine à récupérer des pommes à droite à gauche, à faire notre cidre et bien évidemment à le boire. Au départ, Jackie, un paysan cidrier, nous conseille. Au fil des ans, on s'est équipé pour pouvoir augmenter les quantités, pour moins se casser le dos aussi. Depuis le début, il y a le cidre qu'on se partage, puis celui qui va pour le soutien à des luttes. On peut maintenant se permettre d'envoyer 200, 300 bouteilles pour une occasion sans risquer d'en manquer plus tard. On doit aussi parler du goût. Pas du goût du cidre, mais du goût pour le cidre. Il faut prendre le temps de regarder un verger en fleurs. Les vergers vont avec les fermes, et chacune a son histoire. Chez nous, il reste encore des pommiers un peu partout. Beaucoup de propriétaires sont très contents qu'on utilise les pommes et aussi qu'on s'intéresse à ces arbres. On leur propose du cidre en échange, et aussi d'entretenir le verger. Venir tailler au printemps, enlever le gui, nettoyer sous les arbres. Le mieux, c'est quand ça dure plusieurs années, pour mieux comprendre, connaître, voir l'évolution. Vient le temps des pressés. On réfléchit au mélange, on goûte les pommes, on se fait des blagues en se refilant les plus amères. L'automne est ponctué par plusieurs pressages. Tout le monde s'active. Le jus coule, on le goûte, on fait des commentaires, il est bien sucré, il y a une petite pointe d'amertume, il a un goût de bonbon. À ce moment-là, on est incapable de dire s'il sera bon ou imbuvable. La fermentation, c'est une partie d'échec. Un jeu avec les levures, mais aussi avec la météo qui les influence énormément. Alors tu observes, tu sens, tu goûtes, tu élabores des stratégies. Ce petit jeu-là dure plusieurs mois, avec des cuvées qui roulent toutes seules et d'autres qui te causent bien du souci. Et tant que c'est pas prêt à boire, il y a toujours quelque chose qui peut dérailler. Avec les deux pieds dans les pommes, tu aimes les saisons, le temps qui change. Tu digères de moins en moins bien l'industrie du fruit et légumes, son exploitation des ouvriers, son massacre des terres cultivables. Et puis, il y a aussi l'industrie du loisir et du chacun pour soi. Tu ne supportes plus les chevaux qui sont montés deux fois par an et qui, dans notre coin, grignotent des hectares et des hectares et même parfois suppriment de vieux vergers. Bourgeois ou prolos, ils font grimper le prix des terres et des maisons. Tu as l'impression de savoir encore plus pourquoi tu es là, pourquoi tu luttes. Voir un verger coupé, c'est un coup de sang pour lutter. Patrick,
Pascal, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Sylvie, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Et moi, je te raconterai l'histoire. François, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Laurent, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Fustule, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Jean-Luc, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Et moi, je te raconterai l'histoire. Des punks qui vendent des crêpes contre l'avortement. Des punks qui vendent des crêpes contre l'avortement. David, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Francis, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Alain, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Martine, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Et moi, je te raconterai l'histoire.
Bonjour, bon vendredi sur Radio Campus. Alors vous l'avez reconnu, c'est le générique d'Actulutte, l'émission mensuelle du poil à gratter. Alors maintenant, Actulutte, ce sera tous les derniers vendredis du mois. Avant, vous êtes tous les premiers vendredis du mois. Maintenant, ce sera tous les derniers vendredis du mois. Alors, donc au studio aujourd'hui, Johan, Florent, Florence, Clémence, Anna et moi. Et il manque Ben, Clémentine et Manu, qui est toujours envoyé spécial à Poligny. Alors, on vient d'entendre juste avant, donc on vient d'entendre Didi Wampas et sa chanson Patrick. Et aussi avant, on a entendu Florent, donc il nous a fait une lecture d'un livre qui nous inspire, Constellation, qui est écrit par le collectif Mauvaise Troupe. Alors, au sommaire aujourd'hui. Donc, au sommaire aujourd'hui, nous allons commencer par un reportage de Johan, donc qui a rencontré Michel, un bénévole de la Banque Alimentaire. Ensuite, un reportage de Florence, qui était dans le 18e de Paris cet été, à La Chapelle, donc un son sur les réfugiés. On va poursuivre ce reportage avec Clémence, qui a rencontré deux travailleurs sociaux qui partagent leur observation sur l'accueil des réfugiés. Et tout de suite, alors on commence par une petite chronique sur la lutte intime avec Florent et Anna.
On fait à deux ?
Ouais.
Ouais, super.
Arrête, tu me saoules.
Bah, attends, qu'est-ce qui te prend, là?
Quand c'est toi qui fais, tu fais comme tu veux, mais quand c'est moi qui fais, ben, je fais comme je veux.
Bah, attends, on peut quand même faire la cuisine ensemble.
Bah non, moi, je préfère cuisiner toute seule.
Bon, écoute, d'accord, ok. S'il te plaît, d'abord, tu poses ton couteau. Ce que je voudrais que t'entendes, c'est que moi, j'ai envie de participer.
Mais t'as déjà participé. Hier, t'es allé à Leroy Merlin et à Super U. Maintenant, c'est à moi de faire.
Ouais, mais toi aussi, t'es allé en course ce matin. Et j'ai rien fait depuis que je suis levé.
Bon, d'accord. Mais pourquoi tu découpes à nouveau les légumes alors que je viens de le faire? C'est vexant. C'est comme si je savais pas découper les légumes.
Bah, c'est pas parce que tu sais pas couper les légumes. C'est parce que je préfère les petits légumes. Donc je les recoupe.
Bah moi j'aime bien avoir des gros morceaux de patate, parce que ça sent la patate au moins. Avec tes petits morceaux, on sent que le grillé, pas la patate.
Bon. Bah écoute, tu vois, regarde là. j'ai recoupé que la moitié des légumes. Donc on peut faire cuire les gros morceaux avec les petits morceaux. Puis toi tu prends les gros morceaux et moi je prends après les petits morceaux. Comme ça, ça te va?
Ouais, moi ça me va.
Super.
Alors voilà, on va passer des légumes de chez Florent et chez Anna aux légumes de la Banque Alimentaire. Donc je suis allé rencontrer Michel Janin, qui est responsable de la communication à la Banque Alimentaire de Besançon, et je vous fais écouter ça, on vous fait écouter ça tout de suite.
Bonjour Michel.
Michel Janin, donc je suis chargé de la communication de la Banque Alimentaire du Doubs, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort. Ça fonctionne, une banque alimentaire, comme une grosse centrale d'approvisionnement. Donc, si vous voulez, tous les jours, il arrive des produits. Tous les jours, ces produits sont triés et redistribués à des associations qui, elles-mêmes, distribuent à des bénéficiaires. Donc, nous sommes grossistes. Et le grand principe, c'est de donner ce que nous pouvons récupérer et sauver du gaspillage alimentaire. D'accord. Donc, c'est surtout ça, notre grand principe. On n'achète aucun produit. Tout simplement, soit les fonds européens, l'État nous finance quelques achats, achète pour nous des produits secs en général, d'épicerie, du lait. Et nous allons tous les matins récupérer des produits frais dans les magasins de la ville et autour de la ville, tous les matins donc, qui sont aussitôt triés et redistribués l'après-midi même, puisqu'il faut toujours respecter la chaîne du froid. Alors bien sûr, nous donnons ce que nous récupérons. On ne sait pas d'avance, à midi, le matin en tout cas, ce que nous allons récupérer. Et on fait au mieux pour redistribuer à chacun, en complétant par des produits type conserve qui font l'objet de notre traditionnelle collecte de fin d'année.
Vous pourriez nous citer quelques endroits où vous redistribuez ces aliments?
Oh oui, il y a des épiceries sociales dans le quartier de la Grette, l'Épigrette, potage et papotage sur Palante, d'autres aussi rue de Chalzeul, dans tous les quartiers de Besançon, la Croix-Rouge en particulier aussi à Planoise. Donc tous les quartiers de Besançon ont ce qu'on peut appeler au sens large une épicerie sociale.
D'accord. Sur la Boulois, donc pour les étudiants, non vous
et là, ah oui, effectivement, pour la Boulois, il y a là des pannes qui est rue Jules Le Hague, donc qui fonctionne tous les jeudis soirs. Comme pour toute épicerie sociale, les bénéficiaires sont envoyés, pour ce qui concerne les étudiants, c'est le CROUS, qui permet d'instruire des dossiers, on va dire, et qui permet à ces personnes d'aller, non pas spontanément, mais avec un dossier, dans ces magasins sociaux. Et c'est pareil pour le grand public.
Et donc d'autres associations, le Secours Populaire.
Ça peut être aussi, on est très partenaire avec les Restos du Cœur, et puis bon, la Croix-Rouge, les Petits Frères des Pauvres, l'Armée du Salut, tout un tas d'organismes partenaires en fait pour nous. C'est toute l'année, tous les jours. Donc tous les jours, c'est les actions. C'est un seul métier, on dirait, c'est celui de l'alimentation. Ouais. Mais c'est vraiment aller récupérer, ça peut être chez des producteurs, par exemple, producteurs de lait, producteurs maraîchers. Bon, il n'y a pas beaucoup de maraîchers. Le militantisme, il est surtout sur le fait qu'il faille bien, pour le moment, l'action militante, c'est bien de récupérer tout ce qui peut être récupéré. C'est-à-dire de rien laisser perdre, aller vraiment partout, si on en a les moyens, bien sûr, aller partout pour récupérer, par exemple, l'idée qui prévaut en matière de loi, c'est que tous les commerçants ne jettent plus rien, mais le donnent à la banque alimentaire ou d'autres structures. Bien, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut des bénévoles. Notre association ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Tous les jours, comme disait la publicité, tous les jours, il faut se lever pour remplir le frigo. Bien, des autres. Donc, il faut des bénévoles, il faut des véhicules. Il faut des entrepôts, des frigos, de l'électricité, etc. Donc il y a une limite à notre action, c'est qu'il faudra des moyens, si on veut aller encore plus loin, pour arriver à vraiment ramasser tout ce qui peut être ramassé et ensuite redistribuer. Tout le monde veut faire des économies, donc ce sera difficile d'aller plus loin, mais ce sera la condition de réussite de l'objectif de ne rien laisser perdre si on veut vraiment qu'on nous fasse travailler beaucoup, beaucoup plus longtemps. De même que pour les bénévoles, on aura une limite aussi dans le nombre de bénévoles qu'on peut occuper. On sent déjà un léger tassement quand même, puisqu'il faut trouver des gens, sans doute des retraités vu les heures d'ouverture. C'est pas sûr que les retraités soient de plus en plus, maintenant qu'ils sont de plus en plus tard retraités, donc peut-être ce sera plus difficile aussi. Donc on a beaucoup de combats à mener, combats pas forcément très violents, mais combats quand même, et combats très avec beaucoup d'arguments pour essayer de convaincre tout le monde de notre utilité. On sait qu'on satisfait à peu près 8000 foyers ou 20 000 personnes. Par contre, on ne sait pas, puisque
sur Besançon, pour
le grand Besançon, voilà. Baume-les-Dames, Quinger, Saint-Vite, on ne sait pas, ou plutôt on pense qu'il y a beaucoup d'endroits, où, notamment dans le milieu rural, où le besoin existe, mais il n'y a pas de structure pour relayer notre action. On essaye d'aller vers le public des jeunes, des jeunes et des très jeunes, en faisant des présentations dans les collèges, ne serait-ce que pour susciter le bénévolat, expliquer aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire dès l'enfance, puisque même si on parle des grandes surfaces, nous aussi, chacun d'entre nous, je suppose, arrivons à jeter quelques grammes ou quelques kilos même de produits dans l'année. Donc, parce que le but quand même, le militantisme pourrait aussi porter sur le fait qu'on ne jette rien. Pour la planète, c'est pas vraiment bon de cultiver pour éventuellement jeter ou même ne pas jeter. Donc il faut arriver à expliquer toute la boucle vertueuse de la lutte dès le départ contre le gaspillage alimentaire à tous les niveaux. Susciter autant la lutte contre le gaspillage alimentaire que le bénévolat, parce que c'est aussi une donnée qu'on a vu, quelques jeunes qui sont arrivés après, en tout cas pour la collecte, pour nous aider, donc susciter le bénévolat. En même temps, une collecte, c'est parler à des centaines de personnes qui passent devant vous et à qui vous pouvez expliquer la démarche.
D'accord, très bien.
Il y en a assez, il y en a assez, il y en a assez pour tout le monde. Il suffirait de partager sur notre planète.
Alors voilà, j'ai décidé de faire ce son, donc d'aller à la rencontre en fait de ces bénévoles à la Banque alimentaire, parce que j'étais très intéressé par leur combat en fait quotidien de contre la lutte, enfin pour la lutte contre le gaspillage. Et du coup, pour alimenter un petit peu ma réflexion, j'ai commencé à regarder à chercher des chiffres sur Internet notamment, et je me suis vite aperçu qu'en fait il y avait plein de chiffres qui avaient avec lesquels on n'avait pas les mêmes résultats, en fait, que ce soit le gouvernement ou telle association ou tel collectif qui présentait les choses. Néanmoins, j'en ai gardé quelques-uns et qui nous permettent de constater que le bilan, les chiffres sont préoccupants dans ce gaspillage qui est fait quotidiennement. Donc, d'après le ministère de l'Agriculture, il y aurait 10 millions de tonnes de déchets alimentaires qui sont produits chaque année. Et la plus grande partie est produite en fait par les foyers français. Donc voilà, il y a plus de 6 millions de tonnes qui sont perdues, dont plus d'une tonne qui sera encore consommable. Soit 38 kilos de nourriture consommable qui est jetée toutes les secondes en France par nous. Donc on trouve aussi plus de 2 millions de tonnes qui sont gâchées par la distribution et 1,5 million par la restauration. Bref, en France, il y aurait 3,5 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire, donc Resto du Cœur, Banque Alimentaire, d'autres associations comme le Secours Populaire, la Croix-Rouge, etc. Mais encore une fois, les résultats sont controversés, puisque d'autres indiquent plus de 6 millions de personnes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens seraient resterait en marge de cette distribution. Voilà, donc on peut constater que le gouvernement fait des efforts. Il y a des lois qui incitent la moyenne et grande distribution à éviter de jeter, notamment en rendant impropre la consommation des invendus. Donc on connaît tous le coup, tous et toutes le coup de l'eau de Javel dans les poubelles de supermarché. Pour éviter que les gens qui en auraient besoin viennent se servir. Donc ça, maintenant, c'est interdit. Après, dans les faits, est-ce que cette pratique persiste ou pas? Voilà, donc je pense que de notre côté, on peut surtout... Enfin, de notre côté, individuellement, on peut faire plein d'efforts. Il y a des choses à récupérer dans la nature et des choses à aller récupérer dans les grandes surfaces. On peut s'y rendre, on peut leur demander, on peut préparer à manger de notre côté, distribuer dans la rue. On peut essayer de cuisiner au maximum tout ce qu'il y a dans notre frigo et... peut-être aussi faire des courses en moins grande quantité, moins consommer et ouais, faire attention à cette surconsommation qui nous fait jeter tant de choses et peut-être dont on n'a pas toujours besoin. Voilà, merci, je te passe la parole, Flo.
Eh ben moi, je vais enchaîner sur un autre reportage, une autre lutte, plutôt de survie humaine dont on a un peu entendu parler et dont on entend moins aujourd'hui les effets, c'est la lutte des réfugiés. En fait, je me suis rendue cet été aux portes de la Chapelle, dans le 18e à Paris, et j'y ai trouvé une centaine d'exilés qui vivaient à la rue, à côté de bars huppés. Peut-être vous en avez entendu parler de cette lutte des réfugiés de la Chapelle. En fait, au départ, ils étaient plus de 400 à vivre sous les ponts des métros du 18e, sous des tentes, et puis ils ont été expulsés. Ils ont perdu leurs tentes et sont divisés. Ils sont divisés par centaines et ils ont investi les quartiers de Paris. Donc voilà, moi je vous propose d'écouter leurs paroles tout de suite.
C'est pas la terre qui est à nous, mais c'est nous qui sommes à la terre.
سنة وما أشوف أهلي مهاجر من أهلي سبع سنة ممنوع من بلدي ما شفت قاعد في ليبيا.
يجيك سافي 7 ans qu'il a été entre guillemets banni de son pays, qu'il est loin de sa famille et qu'il va pas retourner chez lui.
ما عارف الحكومة طردني مشيت قاعد في ليبيا كم قعدت 3 سنة بعدين ليبيا صار فيها مشكلة مشيت لتونس.
Mon périple était super long, j'ai dû rester 3 ans en Libye, après il y a eu des problèmes avec l'État libyen, j'ai dû m'enfuir en Tunisie. Et de Tunisie, je suis retourné en Libye. Et j'ai travaillé en Libye 3 ans encore. J'ai réussi à gagner un petit peu d'argent, j'ai acheté une voiture, je voulais partir au Tchad, mais on m'a cassé les genoux, enfin on m'a volé ma voiture, on m'a tapé. J'ai traversé le désert, j'ai failli mourir, mais de toute manière là-bas je suis mort, alors mort pour mort, autant essayer de faire quelque chose. Et maintenant que je suis arrivé ici, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées sur le parcours, quand j'arrive ici, on me dit t'es un réfugié tchadien, ici c'est un camp de Soudanais, la police m'a envoyé à droite, à gauche, et j'ai vraiment eu du mal avant de trouver les camps de réfugiés.
Imagine, la France ne peut pas le jouer à Tchadien, je dis, les Tchadien, vous n'avez pas de problème. Nous avons plus de problèmes, je ne vois pas dans l'éclame.
Et il dit que l'État français lui a dit qu'en tant que Tchadien, il n'y a pas de guerre dans son pays, il n'y a pas de problème et qu'il n'a pas le droit de faire une demande d'asile, mais que le Tchad est un des pays qui rencontre le plus de problèmes. Que le Tchad, c'est un des pays qui rencontre le plus de problèmes et que juste on n'en entend pas parler à la télé, donc on fait rien. Mais au final, l'État français me dit démerde-toi, moi comment je peux faire?
لكن تو ما في ما قدرنا حتى اصحاب هربوا خلوه نحن هربنا بروحنا وبلدنا واهلنا وعائلتنا ساكنه في تشاد ما قدرنا نشوفوها
يجي enfin il comprend pas pourquoi l'État français l'aide pas plus. Il dit que quand il a été en Libye, l'État libyen l'a aidé à s'installer un petit peu, l'a aidé à trouver un travail, c'est pour ça qu'il a pu s'acheter sa voiture et faire son périple. Il comprend pas pourquoi personne ne les aide, pourquoi l'État refuse de voir. qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas rentrer chez eux sans grand péril et que pour l'instant on les laisse ici à la rue.
إذا كان فرنسا تحترم حقوق الإنسان نحن ما كان حياتنا بخطر يعني واحد رجع تلو كان قاعد هنا بيقول لا أنت ما عندك حق اللجوء باشين ندور واحد ينتحر ولا كيف وصلت معانا لدرجة
certains d'entre nous ne savent plus, ils veulent se tuer, et d'autres ils ont fait des tentatives de suicide parce qu'ils savent plus quoi faire, ils sont jetés à la rue, ils ont faim, ils ont froid. Et qu'au final, qu'est-ce qu'on peut faire nous, enfin qu'est-ce qu'eux peuvent faire en tant que réfugiés, demandeurs d'asile? Ça parle de faire des grèves de la faim. Au bout d'un moment, c'est des gens qui connaissent la faim, puisqu'ils ont pour certains traversé le désert. Et quand même, les seules solutions qui se présentent à eux, c'est d'attenter à leur jour, alors que leur vie est déjà en péril chez eux, enfin entre guillemets chez eux, dans leur pays d'origine, et qu'ils sont réduits à des moyens tels qu'il y en a certains qui pensent au suicide, alors qu'ils sont venus ici pour trouver entre guillemets un Eldorado, et pas un Eldorado du pays facile, tous, excusez-moi là je traduis plus, mais je passe mes journées sur le camp et tous me demandent si on va pas leur trouver des petits boulots noirs en attendant qu'ils aient des papiers pour qu'ils puissent au moins manger. Ils veulent vraiment travailler, ils veulent vraiment s'intégrer, participer à la vie en France. C'est vraiment dégueulasse de les laisser dans la merde comme ça. De leur interdire une manif sur deux, de leur envoyer les CRS. Ils ont connu 20 expulsions, ils ont connu 8 expulsions en 27 jours. 8 expulsions en 27 jours. Imaginez-vous ce que c'est d'être redirigé du 18e et qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils nous disent, attendez, on était à Éole, on nous a virés, on se retrouve de l'autre côté du pont à Pajol. Qu'est-ce que ça change pour l'État? Bah, on leur a expliqué qu'en fait ça change rien pour l'État, c'est pour les mairies. À Éole, on est du côté du 19e. À Pajol, on est du côté du 18e. La mairie du 19e, on a eu marre de nous. Ils nous ont envoyé les CRS et les gendarmes mobiles. On est reparti dans le 18e. Et au final, c'est une lutte qui. Il dit si on aurait su à quel point on aurait souffert ici, on ne serait pas venu. On n'en peut plus. Il a dit on a failli mourir en mer. Il dit j'ai failli mourir en mer pour arriver en France, en Europe, et me retrouver à dormir dans la rue sous la pluie.
وهذا كل ما قضية نتحمله لكن يرجعونا بلدنا هذا معناته فرنسا بتبي تقتلنا معناته لما رجعتك بلدك معناته.
Il dit nous on veut rester et parfois on nous dit que nos demandes d'asile elles peuvent être refusées et qu'on peut nous renvoyer chez nous. Mais nous renvoyer chez nous c'est nous tuer. Si l'État français nous renvoie chez nous c'est vraiment qui c'est pour l'État français nous assassine.
Oh! Je viens du Mali, je m'appelle Drago Alou. Je suis en France, ça fait 3 ans maintenant. Quand je suis arrivé, j'ai demandé l'asile, j'ai fait 9 mois de procédure et ça, après ça a été rejeté. Jusqu'à présent, je n'ai rien comme document d'être là. On m'a pas donné de kitef ni rien. Je suis là en tant qu'illégal, sans travail, sans maison. Je n'ai jamais eu un toit qu'on a dit, Drago, il faut dormir ici. Je dors dehors. La difficulté qu'on a pour passer le message, que les gens entendent nos voix. Nous, les Africains, on est dans la difficulté parce qu'on est victime d'un système qu'on ne sait pas comment expliquer. La réalité est que tout vient de là, l'Occident, parce que la majorité des pays africains a été colonisée par la France. Mais malgré tout cela, après l'indépendance jusqu'à nos jours, l'Afrique est toujours dans la difficulté parce que le manquement de système d'éducation. Parce que quand un pays, il n'y a pas l'éducation dans un pays, le développement est très difficile. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Par exemple, toujours on dit l'Afrique est riche, mais toujours c'est les Africains qui souffrent. Parce que toujours, on est indépendant corporellement, mais mentalement, on est tenu encore. Parce que d'où va notre richesse, on ne le sait pas. Nos dirigeants sont corrompus. Quelqu'un qui vient, qui dit non aux Français, ne dure pas au pouvoir. C'est ça que la difficulté que l'Afrique a. Quand on impose la démocratie à un pays, par exemple, c'est pour approfondir la pauvreté de ces pays. Parce que la démocratie, c'est quelque chose des pays développés. Nous, les Africains, on n'est pas arrivés à ce niveau-là. Parce qu'il nous manque beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à ce point. C'est pour cela qu'il y a tant de gens qui sortent pour chercher le vie meilleure. Parce que chez nous, même quand on étudie d'arriver à un niveau, tu n'auras pas de travail. Si tu n'as pas quelqu'un de haut gradé qui est devant toi, tu n'auras pas. Parce qu'il y a la corruption sur tous les ministères. C'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. C'est obligatoire que les Africains sortent. Par exemple, il y a beaucoup de compatriotes qui vivaient en Libye tranquillement. Ils avaient leur appartement, leur travail. Mais avec la guerre, ils sont obligés de sortir. Arriver ici à un pays comme la France, le pays qui parle de droits de l'homme. La Libye a été combattue par la France. Tout le monde est conscient de ça. Mais on ne sait pas jusqu'à présent la cause pourquoi la guerre a été éclatée. Maintenant que tous ces gens-là sont sortis pour avoir une protection, d'avoir une vie digne, une vie meilleure, arriver, ils ne reconnaissent pas. C'est ça la difficulté que les gens ont. Mais s'il s'agit de travailler gratuitement, on est peu par les main-d'œuvre. Mais quand il s'agit de payer, il n'y a pas de travail pour nous. Nous, on n'arrive pas à comprendre cela. Le moment où nos pays a été colonisé, tout un peuple travaillait pour l'État français. Mais aujourd'hui, la minorité des gens qui ont eu le courage de sortir, de risquer leur vie, de la mort pour traverser la Méditerranée, pour arriver là, ils ne voient pas une porte de sortir. C'est le désespoir. Regarde, si on regarde avant, il pleuvait l'abondance, le climat était bien. Mais maintenant, avec le réchauffement climatique, le climat est bouleversé. Il y a la sécheresse qui avance dans des pays où il n'y a pas l'accès à l'eau. Tout ça, nous sommes victimes de tout cela. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous, on ne fabrique pas des armes. On ne fabrique pas des bombes atomiques. On ne fabrique pas des armes nucléaires. C'est les grandes puissances qui fabriquent tout ça là. L'évolution de la vie, ça bouleverse le... Ça contamine le climat. Et donc, nous, on est victimes de tout cela. Moi, quand je me suis né, il y avait derrière notre maison, il y avait une rivière où on se baignait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une seule goutte qui passe là-bas parce qu'il y a eu des changements de climat. Donc, c'est la réalité. L'Afrique est en danger. Il y a des endroits où les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Il faut faire des kilomètres pour l'avoir. Mais aujourd'hui, les grandes puissances, ils investissent des milliers, des millions pour aller chercher des autres planètes, pour faire des grandes découvertes. Alors que la Terre, on peut avoir tout si on le préserve bien, de ne pas avancer trop. On vit de la nature et c'est tout. On vit d'une époque aussi. Chaque époque a son temps. Ça avance, ça revient. L'histoire se répète. Moi, tout ce que je demande à l'État français de regarder la jeunesse qui est là, qu'ils leur donnent une chance de travailler. S'ils régularisent les gens ont des papiers. Ça, ça dépend de leur courage de faire améliorer la vie. Mais restant comme ça, sans papiers, il n'y a pas de travail. Malgré tout cela, on veut le minimum de dignité en tant qu'humain pour qu'on puisse vivre dignement notre petit temps qu'on a pour la terre là. C'est ça que je voulais dire.
La majorité, c'est du réfugié soudanais, érythréen, il y a quelques Somaliens, il y a des Tchadiens aussi, il y a des Éthiopiens, il y a des Afghans, mais pas sur ce camp. On a aussi quelques réfugiés syriens. Comment ça s'organise concrètement? On compte beaucoup sur la solidarité, les voisins qui nous donnent des coups de main, qui vont faire les courses pour nous parfois. On a quelques magasins, boulangeries qui veulent bien nous donner leurs invendus de la journée, ou même donner des articles de leurs magasins parce qu'ils comprennent, ils voient la situation. Il y a même des voisins qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils avaient honte d'être français, qu'ils n'avaient pas quoi faire, qu'ils avaient envie de déchirer leur carte d'électeur, ils ne savaient plus où ils en étaient parce qu'ils nous disaient qu'ils voient la misère humaine depuis leur fenêtre et ils voient que les CRS qui passent pour compter les réfugiés tard le soir ou ou la sécurité de la mairie qui vient compter les réfugiés pour savoir ils sont combien. Donc on s'organise de la solidarité et honnêtement on n'est jamais assez. Quand ils ramènent à manger, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour qu'ils se... entre guillemets, qui s'indrègue et qui puisse vivre. Mais d'un autre côté, ils peuvent pas prendre le métro sans se faire contrôler et on peut pas toujours leur payer des tickets pour éviter les contrôles. Enfin, c'est vraiment un ras-le-bol, on en a marre. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Ils sont nulle part pour aller aux toilettes, nulle part pour se doucher. Ils dorment à la rue. Hier soir, à 5h du matin, ce matin, à 5h du matin, il s'est mis à pleuvoir. Il pleuvait des cordes. On a dû courir. On était 5 soutiens avec une centaine de réfugiés. On a dû courir pour aller essayer de leur ouvrir un parc pour qu'ils puissent dormir, même pas sur des draps secs parce que les draps ont été trempés, mais qu'ils puissent au moins ne plus prendre de la flotte sur la gueule. Et pendant ce temps, à mon avis, il y a les conseillers municipaux de la maire de Paris, là, je sais pas moi, le maire, enfin l'adjoint au 18e et l'adjoint au 19e, qui sont tranquillement peinards chez eux en train de déguster des canapés, à mon avis, ou des petits fours, enfin. C'est dégueu, quoi.
Bien sûr, on est emporté par la vie. Comment fais-tu de paille dans l'infini? Et puis, on est tenté de tout laisser tomber et de ne plus lever les yeux sur ses pieds. Et puis, si par hasard, on a la chance de trouver, de tenir l'amour immense, alors on a tendance à oublier l'ami, l'autre qui dort tout seul dans le froid et l'oubli. Je voudrais faire vœu de ne jamais détourner le regard, mais je sais bien que dans les gares, on est toujours trop en retard. J'aimerais bien faire valser la misère jusqu'au bout de l'univers, jusqu'aux confins du ciel, mais je redescends trop tôt sur terre. Alors reprends le train-train quotidien, celui qui vous enveloppe si bien, celui qui peint vos rêves, celui qui fait la trêve avec la conscience d'Ève et du serpent. La banque, la maison, la femme, les enfants bientôt effaceront tous les relents. Relents d'élan de cœur, confondant dans un même caramel, écœurant le diable et le bonheur. Je voudrais faire vœu de ne jamais détourner le regard, mais je sais bien que dans les gares, on est toujours toujours trop en retard. J'aimerais bien faire valser la misère jusqu'au bout de l'univers, jusqu'aux confins du ciel, mais je redescends trop tôt sur terre.
Alors moi, j'apporte une aide. Ça dépend des jours, des besoins. Ça peut être des dons alimentaires, des accompagnements à l'hôpital, parce qu'il manque énormément d'accompagnateurs. Ça peut être des cours de français. C'est plein de choses en fait qui s'organisent au jour le jour. Quoi. On connaît pas vraiment à l'avance les besoins. Enfin, si ce n'est les besoins primaires, hein, l'alimentation, etc., la santé. Pour le reste, c'est vraiment au jour le jour. Quoi. Ça dépend.
Alors comment ils font pour l'alimentation ?
Bah, il y a des associations qui viennent donner, et après c'est surtout des dons de riverains, de personnes citoyennes comme moi qui n'appartiennent à aucun parti politique ou association, quoi. Ça dépend des jours, des mois, donc voilà. Mais il y a des associations évidemment qui aident, mais c'est pas régulier.
C'était quelques retours de paroles de migrants et de ceux qui aident les migrants, du moins cet été, à Paris, aux portes de la Chapelle. À savoir, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ? Ben, en fait, quelques jours après mon reportage, la mairie du 18e a installé un grand manège sur la place où ils dormaient tous. Donc après quelques déboires, finalement, ils ont trouvé un lycée où pouvoir squatter. Et quelques semaines plus tard, ils étaient pas moins de 600 à 800 à dormir dans ce lycée. Puis en octobre, sans prévenir, la police a embarqué à peu près 1300 exilés vers des centres d'hébergement. Pourtant, tous ne sont pas partis, pour autant. Et ceux qui ont échappé, on pourrait dire malheureusement, à cette rafle, dorment toujours à la rue aujourd'hui, pendant cet hiver. En fait, ils ont investi la place de la République, où ils manifestent régulièrement. On peut trouver des échos dans les journaux. Je vous invite à regarder un petit peu plus. Évidemment, là, on parle simplement de la lutte à Paris, mais il y a aussi Calais, Ventimiglia et tellement d'autres lieux qu'il faudrait prendre le temps de prendre des sons aussi. Enfin, voilà, quelques mots pour leur donner la parole.
Oui, et moi, je vous propose de poursuivre sur ce même sujet. Et de vous faire partager un récit de deux travailleuses sociales qui, elles aussi, dans leur cadre de leur travail, sont confrontées à des situations dramatiques et des réponses compliquées au niveau des institutions. Et donc voilà, elles sont en colère et je trouve qu'on n'entend pas assez ce discours-là. En tout cas, moi, je le découvrais quand elles me l'ont fait partager. Alors, à moi de vous le faire partager.
Entendre parler d'accueil des migrants, moi je peux plus. Enfin, ce mot-là, accueil, il a un vrai sens. Et dans ce qui se passe aujourd'hui, on peut plus l'utiliser en tant que tel. Quoi. C'est une hypocrisie énorme. Et c'est des gens qui arrivent avec des vécus hyper traumatiques de toutes sortes, de différentes natures, qui sont censés déposer ce vécu-là et le présenter comme un motif de pour que leur séjour ici soit régulier. Enfin, je veux dire, on leur demande l'impossible, quoi. C'est des gens qui sont fracassés, qui parlent pas la langue, et qui doivent, bah, notamment dans le cadre des demandes d'asile, hein, produire ce qu'on appelle des récits de vie. Dans quelles conditions ils les font, quoi ? C'est-à-dire, la plupart du temps, les récits de vie, ils sont un peu bâclés, les gens se débrouillent comme ils peuvent, et ça passe pas.
Alors, juste à ce titre-là, il y a une dame qui me disait qu'il faudrait arriver en France avec un tonne de dossiers. C'est-à-dire que la valeur de la parole des gens, du témoignage, ne compte plus. Ce qui compte, c'est les preuves papier. Mais quand les gens y partent, ils n'anticipent pas en disant « Dans 10 ans, je vais quitter mon pays, il me faudra les preuves de ça, ça, ça. » Du coup, comment justifier d'une situation terrible, de violence qu'ils ont pu vivre, etc. sur des simples papiers? On est quand même dans un système où voilà, il faut prouver, mais on oublie d'écouter les gens et de faire preuve d'empathie. Et du coup, on n'accorde plus d'importance à leur récit. Et le récit, c'est devenu administratif, effectivement. C'est une interview, quoi. Il y a des questions, on demande des détails. Alors, c'est vrai que nous, quand les personnes, elles vont passer à l'OFPRA, à la CNDA, on essaie de les préparer un minimum en leur disant, effectivement, on va vous poser des questions sur des détails. Si vous ne répondez pas aux questions, ça peut être pris comme une incohérence, tout ce qui est incohérent, imprécis. Ça peut décrédibiliser votre récit. Alors qu'on sait très bien que les personnes qui ont vécu des événements traumatisants, on le sait, discours est incohérent. Il y a un problème de repère dans le temps, dans la chronologie, parce qu'un événement traumatisant, ça a des répercussions, effectivement. On ne peut pas demander à une personne qui a vécu des violences de dire exactement ce qu'elle a vécu, c'est compliqué. C'est vrai qu'on n'a plus cette dimension de recueillir la parole de l'autre. Et aussi de dire, je crois l'autre. Ça, il faut des preuves. C'est devenu très administratif. Et donc, on passe d'une personne à une autre, et puis on a un quota à appliquer, et puis quoi.
C'est ça, effectivement, qui est vraiment terrible. Hein. C'est que c'est des gens qui arrivent avec des histoires super lourdes et qu'il faudrait un vrai accueil, pour le coup, et un vrai accompagnement, et prendre vraiment le temps, parce que c'est des choses qui prennent vraiment du temps. Souvent, ce qui est reproché aujourd'hui dans le monde de l'insertion, des centres d'hébergement en particulier, c'est que le constat est fait que l'hébergement des personnes migrantes, il dure plus longtemps que l'hébergement des autres personnes. Oui, évidemment. Et alors, je veux dire, s'il faut rester 2 ans, 3 ans en centre d'hébergement, alors il y a les délais administratifs, les gens ne sont pas responsables de ça. Hein. Quand tu me demandes, elle met 6 mois à être traitée, 1 an à être traitée à la préfecture, oui, ça va coûter 1 an d'hébergement à la société, évidemment. Donc la préfecture a qu'à bosser plus vite. Je veux dire, pourquoi on demanderait aux gens de sortir et pas à la préfecture de bosser plus vite? La logique est déjà totalement dingue. Et puis ensuite, oui, ça prend du temps, mais si on met 2 ans, 3 ans à vraiment accompagner quelqu'un correctement et que quand le moment est venu de s'installer de façon plus autonome et de mener sa vie de façon plus autonome, il y a eu un bon boulot d'accueil et d'accompagnement avant, c'est tout ça de gagner sur la suite. Je veux dire, les gens, ils s'amusent pas à venir solliciter les services sociaux pour le plaisir, hein. Bien sûr que non. Du haut de ma toute petite expérience, ça fait 3 ans que je travaille dans l'insertion, on va dire, et puis dans le monde de l'hébergement pour les adultes, dans le travail social. Moi, j'ai vu le discours des partenaires, entre guillemets, se durcir et vraiment vriller. Et où il y a vraiment quelque chose qui s'est installé dans le discours et ils ont l'air d'être un peu tous d'accord, en plus, sur cette chose-là qui n'est jamais citée clairement, hein, mais... Le regard qui est posé sur les mouvements migratoires dans une logique d'invasion. Ils sont super nombreux, ils sont pleins, on ne peut pas faire face à toutes les demandes, etc. Alors, nous, comme on n'est pas spécialisés là-dedans, on est un peu embêtés, parce que les chiffres, on ne les connaît pas précisément. Nous aussi, on envoie des personnes migrantes, on en voit un petit peu plus qu'il y a 3 ans quand je suis arrivée. Moi, j'en suis un petit peu plus. Donc oui, il y a peut-être un petit peu plus de monde qui arrive, mais ce n'est pas quelque chose... c'est pas une montagne, quoi. Oui, il y a du monde qui arrive, alors accueillons-les, faisons en sorte qu'il y ait des moyens pour les accueillir. C'est pas une masse de gens, quoi. Voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est plein de personnes qui arrivent avec des trucs terribles, et il faut s'occuper de chaque personne. Si on commence à les voir comme un espèce de flux, alors là, il n'est plus question de rien voir de singulier ou d'humain là-dedans. Enfin, je veux dire, les flux, c'est de la flotte, c'est de l'électricité, c'est pas des gens, quoi.
Alors... Sur les réponses, on va dire, institutionnelles, effectivement, nous, on est confrontés, on se heurte à un mur parce que nous, on a affaire aux gens. Et on est en lien avec les personnes qui sont dans ces situations-là. Et on est face à un mur dans la mesure où on nous donne apporte des réponses qui prennent pas en compte cette réalité. Et il y a aussi la mise en opposition, effectivement, des personnes, différentes catégories de personnes en difficulté. Et on met en opposition les Français, entre guillemets, les personnes qui ont des droits sur le sol français, qui sont régularisées ou voilà, qui ont la nationalité, avec les personnes qui n'ont pas eu cette reconnaissance, on va dire, administrative. Donc ça, je trouve que c'est dangereux. Là, on est en train de faire un amalgame en disant le danger vient de l'extérieur. Et pour les gens qui n'ont pas la même lecture que nous, parce que nous, on est confrontés, on les rencontre, ces gens, donc forcément, on voit les choses différemment, et bien du coup, effectivement, il y a un amalgame qui se fait et il y a un rejet qui se fait, parce que le rejet dont nous parlent les gens, alors hormis certaines administrations, etc. Il y a aussi les gens de l'extérieur, quoi, les remarques qu'on peut leur faire dans la rue. On les considère comme un boulet qu'on traîne, quoi. Comme si on allait les porter toute notre vie. Mais c'est des gens, ils ont des choses à apporter, quoi. C'est des gens qui ont des ressources. De quitter son pays, de traverser d'autres pays, hein, parce qu'on sait très bien, quoi, on se doute des dangers que ces gens y prennent en partant, de ce qu'ils vivent, des conditions dans lesquelles ils partent, de se retrouver dans l'inconnu, il faut avoir des sacrées ressources quand même, franchement. Les gens qui ont des préjugés, mais allez rencontrer ces gens-là, allez les voir. Allez leur parler.
C'est commencer par là, c'est vrai. Voilà. Ce que tu disais, il y a la question des moyens. Après, on va être limité dans ce qu'on peut mettre en place, bien sûr. Puis encore, ça se discuterait. Ouais. Mais admettons qu'on prenne ça en compte. N'empêche que le travail qu'on peut faire sur le regard qu'on porte sur ces personnes-là, c'est à la portée de n'importe qui. On peut tous faire attention à la manière dont on les regarde et dont on parle d'eux. Et nous, dans le travail social, on assiste clairement à des dérives dans le discours et dans le regard du coup, qui est porté sur ces personnes. Le rôle du travail social, c'est toujours à la limite entre les gens les plus vulnérables, on peut dire la marge d'une certaine manière, on est au contact de gens en marge, elle reste du monde, le monde plus normal, le plus normé. Jusqu'à maintenant, c'était possible dans le travail social, c'était même un peu l'essence même du travail social, que de presque un peu défendre quelque chose des personnes vulnérables, et puis d'aller dire quelque chose au reste du monde de qui sont ces gens-là, et de... voilà, de travailler cette question du regard, c'est aussi une des fonctions des travailleurs sociaux. Moi, ce qui m'inquiète énormément à l'heure actuelle, à tel point que je me dis, on verra comment ça se passe, mais si je ne travaillais pas là où je travaille aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je continuerai à travailler dans le social ailleurs. Je veux dire, ils sont en train de faire des choses pas possibles, quoi. Et là, le discours des travailleurs sociaux, il est du côté de la méfiance, du côté de cette logique des envahisseurs. Ça, c'est super, super inquiétant. Donc ça c'est pour les pires, et puis pour les moins pires, on va dire, peut-être ceux qui sont un peu abîmés aussi à force, parce que c'est des boulots où on peut être quand même vachement abîmé. C'est ce que je te disais tout à l'heure, les gens prennent même plus le temps, les travailleurs sociaux, hein, d'être un peu emmerdés par la situation des gens, d'être un peu embarrassés parce qu'ils savent pas quoi faire. Donc c'est lourd, hein, d'être embarrassé, de ne pas savoir comment on peut travailler, parce que le cadre en plus d'intervention il est super flou, c'est pas clair du tout. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce à quoi les gens ont droit, ce à quoi ils n'ont pas droit. C'est... Dans les pratiques, ce n'est pas clair, parce que dans les textes de loi, c'est quand même assez clair. Mais on ne prend même plus le temps d'être au moins embarrassé de ne pas pouvoir leur répondre ou de ne pas savoir tout de suite quoi leur répondre, quoi. Et ça, c'est vraiment hyper inquiétant. Mmh. Hyper inquiétant. Ça veut dire que ce souci d'humanité, il ne fait plus partie du boulot, en fait, alors que c'est la base du travail. Mmh. Alors là, la base, quand elle est effritée à ce point-là...
Puis la base du travail social, c'est la rencontre avec l'autre, et c'est jamais simple. Oui. Parce que quand on est dans la rencontre et qu'on est dans l'accompagnement de la personne, on n'a pas à faire une machine, hein, on ne la programme pas, et on demande tel résultat dans un tel laps de temps. Non, là, on est face à un autre être humain, et l'accompagnement, c'est aussi respecter le cheminement de la personne. Et il y a aussi cette notion de temps. Et le travail social, la dérive, c'est la notion de résultat. C'est-à-dire qu'on nous demande de quantifier et d'être dans un truc qualitatif de notre boulot, sauf qu'on travaille avec des êtres humains. On ne peut pas... Alors effectivement, on peut évaluer. C'est difficile de donner des chiffres. On nous demande des chiffres, on nous demande de rendre compte, on nous demande d'être efficace, on nous demande d'être dans un turnover. Et de l'impact de notre travail... sur la personne, mais on ne le sait pas. Quand je veux dire, c'est ce qu'on peut apporter à la personne. Bon, déjà, on est dans un rapport réciproque, c'est-à-dire qu'on travaille là où on est la personne, avec ce qu'elle veut bien nous donner, avec ce qu'elle est en capacité de nous apporter. Et à partir de ça, il faut qu'on le respecte déjà, parce que voilà, sinon on est des grands manipulateurs et on n'a rien à faire dans le social. Et puis après, effectivement, ben, en fonction de ces données, en fonction du cadre de notre intervention, de nos moyens, on accompagne au mieux la personne par rapport à un objectif qu'elle s'est fixé. Mais l'objectif qu'elle s'est fixé, c'est pas celui de l'État, c'est pas celui que nous on s'est donné, c'est son objectif à elle. Et des fois, c'est des petits pas. Et peu importe, ça reste un pas. Et c'est pas aux personnes de s'adapter au système social, c'est à nous de nous adapter aux besoins des personnes et de les accompagner au mieux. Je voulais saluer quand même le travail des associations militantes avec qui on est en lien, qui font un travail formidable, qui sont un peu un exemple pour moi. La CIMAD, le CDDLE, Amnesty, ces gens qui sont bénévoles, qui sont investis, qui vraiment donnent de leur temps et qui sont très compétents. Franchement, chapeau, quoi. Et c'est vrai que sans ces associations-là, je ne sais pas comment on bosserait.
Il semblerait, donc, dans toute cette folie, qu'une des pistes d'action les plus pertinentes, ce soit celle qui est du côté de la justice, du côté des actions pour faire reconnaître les droits des gens. On va beaucoup là-dessus en ce moment. Je sais que la CIMAD essaye d'organiser aussi en ce moment un recueil de données au niveau national pour éventuellement lancer une action en justice contre l'État, qu'on s'entende bien, quoi. Parce que le droit des personnes, il existe en France, et c'est ce qui fait aussi l'exception culturelle française, hein, c'est toute cette culture d'accueil, normalement, et humaniste, c'est là-dessus que ça repose, quoi. Dans la pratique, on n'est plus du tout en train de pratiquer ça, quoi. Là, on en arrive à un point où des décisions sont prises, elles sont pas légales, quoi, elles sont pas en conformité avec le droit des personnes. Donc les services sociaux sont pas fous, ils savent bien que c'est limite. Donc c'est des décisions qui ne sont pas écrites. C'est donc des choses très très compliquées pour faire respecter le droit des personnes derrière. C'est hyper compliqué de pouvoir rassembler des éléments qui prouvent que là on est en train de mettre des bâtons aux roues dans les roues des gens qui veulent accéder à leurs droits. C'est quand même de la folie, quoi. C'est vraiment de la folie.
C'est ainsi que se termine ActuLutte. On se retrouve le 26 février 2016. Hope is